Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand entretien.
Et notre invité ce matin, c'est Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et de Vinci Airport. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a plein de questions. On va parler des aéroports, on va parler de l'hydrogène, on va parler du transport ferroviaire aussi, puisque vous êtes aussi gestionnaire de l'infrastructure du Tour Bordeaux, qui permet de relier Paris à Bordeaux en 2 heures. On commence par les aéroports. Est-ce que vous aimez les avions ? On va vous poser la question. On va d'abord écouter Augustin de Romanet, le PDG d'ADP qui vous a précédé. Écoutez-le.
Si demain matin, le trafic aérien devait décroître, ça n'est pas une tragédie existentielle pour nous. Je ne me mettrai jamais en travers de ceux qui veulent avoir des comportements plus responsables. Je pense qu'il faut être aussi raisonnable que possible dans ces comportements pour la période de transition qui va durer à peu près 20 ou 30 ans et qui doit, ne doit jamais nous faire oublier que sur le long terme, c'est le transport aérien qui va être le système le moins émetteur de CO2.
Est-ce que, comme Augustin de Romanet, Nicolas Notebaert, vous ne mettez pas en travers de ceux qui veulent prendre moins l'avion ?
Ben, y a aucun problème à ce que le choix soit individuel. La question collective, c'est comment on diminue les émissions de carbone. L'avion, vous l'avez dit, je crois, Christophe Jacobessine, il y a quelques jours, c'est à peu près la voiture aujourd'hui. Une voiture thermique.
C'est ce que nous disent les pilotes d'Air France quand on prend l'avion. Maintenant, ils disent vous avez fait 2,7 litres 100, vous avez fait 3 litres 100.
Voilà. Donc, par exemple, le pire, c'est de rouler tout seul en voiture pour faire de la longue distance. Ça, faut le proscrire.
Ouais.
Mais ce qui est important pour réaliser cette transition énergétique, c'est que immédiatement, il y a des solutions pour la voiture. Moi, j'ai la chance de rouler en voiture hybride. Je roule en voiture électrique en ville. Dans l'avion, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, le gros travail pour limiter les émissions des avions, c'est ce que nous faisons dans les aéroports, limiter au maximum nos émissions dans l'aéroport. J'y reviendrai. On est leader mondial de la décarbonation des aéroports. Et ensuite, de travailler à l'avion du futur, ce que nous faisons avec Airbus, pour ce que, au plus tard, en 2035, il y ait les premiers avions à hydrogène vert. Et avant, il y a ce qu'on appelle les biocarburants durables, c'est-à-dire de mélanger du kérosène avec des déchets, par exemple des huiles usagées, ce qu'on a fait depuis l'an dernier à Clermont-Ferrand. Voilà, donc toutes ces transitions de la motorisation et des carburants qu'on utilise vont permettre progressivement de décarboner l'aviation. Mais d'ici là, il faut réduire toutes les émissions partout, et notamment dans les aéroports.
Et d'ici là, est-ce qu'on met au point un avion à hydrogène ? Est-ce que le prix des biocarburants diminue ? D'ici là, est-ce que, comme Augustin de Romanet, vous disiez à vos actionnaires de Vinci, écoutez, si on ne croit pas au cours des prochaines années, c'est pas bien grave ?
Nous, on suivra la demande. Nous, on accueille des compagnies aériennes, des passagers dans le monde entier. Et la situation géographique des pays est très différente. Vous l'avez dit tout à l'heure, on opère une ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Bordeaux, il y a une solution de grande vitesse en 2 heures. Donc, bien évidemment, avant même l'interdiction du Bordeaux-Orly, les passagers avaient massivement migré sur le train. Quand vous avez, à l'inverse, des pays où la population augmente beaucoup, où le niveau de vie augmente beaucoup, la plupart de ces pays disent « attention ». Vous avez consommé du carbone au cours des années passées. Nous, on est en plein développement. Et l'un des enjeux de notre développement dans ces pays, c'est justement de les pousser eux aussi à la décarbonation de leurs infrastructures en profitant un petit peu de notre vision et de notre histoire. Donc, imaginez que simplement dans un seul pays, on va régler les émissions. Non, à l'échelle mondiale, il faut décarboner le transport et c'est notre mission, notre œuvre principale chez Vinci.
Justement, vous avez 70 aéroports, 8 au Brésil, 3 au Japon par exemple, en France, Lyon, Saint-Nazaire, Nantes, l'Atlantique, Rennes. Est-ce qu'on met en place la même politique de sobriété à Salvador de Bahia qu'à Osaka ?
Ben oui, c'est ça la magie de notre politique et de cette industrie. Les aéroports, ils se ressemblent. Vous connaissez les procédures de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne. Mais nous, notre vocation chez Vinci, c'est d'exporter entre les différentes plateformes de notre réseau les bonnes pratiques. Et la magie, c'est que ça marche. Je vais vous prendre l'exemple du Brésil, dont parfois on conteste à juste titre certaines des politiques. Ben, en matière aéroportuaire, ils nous ont retenus depuis 5 ans comme le meilleur aéroport écologique du Brésil, à Salvador de Bahia. Donc ça veut dire qu'on peut exporter un certain nombre de pratiques de décarbonation.
Mais qu'est-ce qui vient alors ?
Alors, on a installé des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie verte sur l'aéroport. On traite complètement l'eau de l'aéroport. On met zéro déchet en décharge. Il n'y a plus aucun pesticide. Il n'y a plus aucune ampoule électrique. On met ce qu'on appelle des LED. Et enfin, on optimise la température. On a tous vécu cette expérience où on est trop climatisé quand il fait chaud ou trop chauffé quand il fait froid. Hier, dans le cadre de notre plan de sobriété énergétique chez Vinci, on a décidé que cet hiver, dans les endroits un peu froids, on ne chaufferait pas les aérogares à plus de 17 degrés.
Ah, il faut mettre un pull quand on vient chez vous.
Quand on prend l'avion, je fais confiance à nos passagers, on a souvent un petit manteau. Et je sais que nos passagers, quand ils prennent l'avion, ils sont aussi soucieux de la planète et donc ils vont comprendre ce petit effort.
Et donc du coup, le gouvernement a demandé aux entreprises de faire un effort, de baisser leur consommation de 10%. Vous avez annoncé 15% hier.
Tout à fait.
Oui, comment vous allez faire
pour arriver ? Xavier Huillard, notre président directeur général, l'a annoncé hier. Vinci, c'est un grand groupe français qui a des installations industrielles et aussi des concessions. Donc on va faire 15%. Comment on va faire ? On remplace toute l'électricité par des LED, je l'ai dit. On va réduire les températures, 19 degrés dans les bureaux, c'est le minimum possible en France, et 17 degrés dans les aérogares. Mais là encore, notre modèle mondial va être intéressant, puisque hier, dans le cadre de notre journée de l'environnement, j'ai échangé avec nos aéroports du monde entier, et on a décidé conjointement de regarder si on peut faire pareil, 17 degrés quand il fait un peu froid, pas chauffer ces grandes aérogares, et de ne pas climatiser quand la température extérieure elle est de 26 degrés ou moins.
Comment se porte le trafic aérien justement ? Vous avez à peu près 255 millions de passagers, c'était le chiffre 2019. Est-ce qu'on est revenu à ces chiffres d'avant Covid ?
Alors ça dépend des régions du monde. Dans les Amériques, notamment Amérique du Nord, Amérique centrale, on a des aéroports qui sont déjà au-dessus de 2019. République dominicaine, Costa Rica pour nous. L'Europe a eu un trafic très tonique cet été, ce qui prouve que la demande de voyage, la demande de liberté, après autant de confinement, est très importante. Un pays comme le Portugal, où nous opérons tous les aéroports, on a atteint à peu près le trafic de 2019.
D'accord.
Et puis l'Asie est en retard. L'Asie est en retard pour plein de raisons. Beaucoup de pays asiatiques sont restés fermés. Et la Chine, notamment, est fermée. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Ce matin, le Premier ministre japonais, par exemple, vient de décider d'ouvrir le pays le 11 octobre prochain. Donc ça change. Les Amériques d'abord, l'Europe très fort cet été, et l'Asie qui viendra sans doute un peu plus tard.
C'est quoi les prochaines cibles pour vous ? Désormais, vous avez donc 70 aéroports. Sur la question des aéroports, où est-ce que vous voulez aller ?
Alors, on a acquis trois réseaux très récemment qui sont symboliques de cette évolution du monde. 13 aéroports au Mexique. C'est un pays dont le trafic, c'est un grand pays dont le trafic intérieur est dynamique, mais aussi des relations avec les États-Unis. Et vous savez que les États-Unis vont sans doute replacer une partie de leur industrie de la Chine vers le Mexique, pour des raisons géopolitiques. On a remporté les aéroports du Cap-Vert, qui sont des îles au large de l'Afrique. Des îles, ça a besoin d'aviation. C'est un pays à la fois touristique et en plein développement. Et on a été attributaire de l'aéroport de Papeete, Tahiti. On imagine bien qu'on peut pas aller à Tahiti sans l'avion. Mais là encore, un programme exemplaire, ça va être le premier aéroport au monde où on va mettre en place un rafraîchissement par l'eau froide qu'on va aller chercher au fond de la mer. Et donc, pas de climatisation électrique, un conditionnement par l'eau froide de la mer. Ce sera une première mondiale proposée par Vinci.
Alors, on parle beaucoup d'hydrogène ce matin. On était avec le patron d'Opium, la voiture à hydrogène. Je ne sais pas si vous croyez à la voiture à hydrogène, mais en tout cas, apparemment, vous croyez aux avions à hydrogène. Vous êtes dans le fond hydrogène français. Pour faire quoi ? C'est quoi votre vision de cette transformation, ce basculement vers d'autres énergies ?
Alors, comme vous l'avez signalé, l'important, c'est l'énergie. Ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la mobilité. Notre besoin de déplacement, il ne changera pas, comme notre besoin de logement, de nourriture. Ce qu'il faut, c'est changer l'énergie pour se déplacer. L'électricité, quand elle est décarbonée, c'est une bonne solution. Mais ça ne marche pas pour de la très, très longue distance en avion. Donc, c'est pour ça qu'Airbus, en tant qu'avionneur, dit « Nous, on travaille sur l'avion à hydrogène à 2035, mais on est leur partenaire pour changer les infrastructures parce qu'on va produire de l'hydrogène vert sur les aéroports. » C'est ce qu'on va faire à Lyon. Mais on est aussi actionnaire et fondateur, avec Total et l'Air Liquide, du plus grand fonds mondial d'hydrogène vert, initiative française, parce que l'hydrogène, ça va se développer partout. Dans le ferroviaire non électrifié, pour remplacer le diesel, pour les poids lourds, sans doute un peu plus prometteur que pour les véhicules, mais ça
vous ne croyez pas au Opium qu'on a reçu alors ?
Tous les modes de transport vont être touchés. Les voitures, les bus, les poids lourds et aussi les avions. Et c'est très prometteur. Simplement, dans l'avion, ce sera de l'hydrogène liquide.
Ouais. Et comment vous faites pour produire de l'hydrogène vert dans les aéroports? On a vu hier qu'on pouvait faire de l'hydrogène vert grâce aux éoliennes, notamment le offshore. Comment vous allez produire de l'hydrogène vert dans les aéroports?
C'est très simple. On utilise toute la surface disponible dans les aéroports en mettant des panneaux photovoltaïques. Et à Lyon-Saint-Exupéry, en France, on a lancé notre plus important projet de tous les aéroports français, là, récemment. Mais on en a ouvert cet été à Faro, où il y a beaucoup de soleil, au Portugal, à Belgrade, à Salvador de Bahia, en République dominicaine. Donc on peut, sur les aéroports, mettre beaucoup de panneaux solaires, et ça va nous permettre de produire de l'énergie
verte.
Avec
des petites centrales hydrogène, où vous allez casser les molécules d'eau pour faire, avec l'électricité renouvelable, de l'hydrogène.
Tout à fait. Avec un électrolyseur, on produit de l'hydrogène gazeux pour les transports terrestres et liquide pour les avions.
Un micro-mot pour finir du dossier Notre-Dame-des-Landes, c'est fini, on n'en parle plus. Vous étiez dans ce dossier, c'est derrière nous.
C'est plus du tout d'actualité, dans le sens où aujourd'hui il y a eu un nouvel appel d'offres qui est en cours. On ne commande pas ce type de dossier puisque c'est des procédures. J'ai parlé de celles qui sont attribuées, je ne parle pas évidemment des procédures qui sont en cours.
Et ADP, la privatisation, c'est un regret toujours?
Pareil, il n'y a pas de regret. Soit il y a des procédures et on avance, soit il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et comme je l'ai dit, on a de quoi s'occuper. On a 70 aéroports. On est le premier opérateur privé mondial. Et il n'y a pas de plus beau challenge en ce moment, notamment pour les jeunes, que de décarboner la mobilité. Préserver la mobilité tout en réduisant les émissions, on est leader dans cette activité, c'est une grande fierté.
C'est un appel au CV ce matin de Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et Vinci Airport.